Mon invité est Thérèse Villers, la directrice et conservatrice du musée Tommy Ungerer, à propos de l'exposition de Frank Hopman et Michel Kishka, intitulée « Dans la ligne de Tommy Ungerer », qui est accrochée jusqu'au 14 mars 2021, même si le musée n'a pas pu ouvrir ses portes. L'Israélien Michel Kishka, illustrateur, connu pour ses dessins satiriques dans la presse et à la télé israélienne. Quel est son lien avec Tommy Ungerer? Pourquoi vous avez décidé de le mettre en avant ici au musée Tommy Ungerer?
Michel Kishka est un grand admirateur de Tommy Ungerer. Il l'a connu, ils ont longuement parlé ensemble, ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et il y a effectivement un lien graphique entre les deux artistes. Je ne dirais pas que Michel Kishka est un héritier de Tommy Ungerer, mais je dirais plutôt que son art, son dessin, procède de la même liberté de penser et de dessiner que Tommy Ungerer, que son illustre aîné.
La liberté d'expression aujourd'hui, en 2021, continue son combat et est loin d'être gagné. Tommy Ungerer avait déjà pris conscience de cette liberté qu'elle pourrait être bafouée.
Je pense que Tommy Ungerer n'a pas arrêté de combattre pour ses idées. Je pense qu'il a effectivement imaginé que cela pouvait un jour s'arrêter ou du moins être freiné. Ça n'a pas été son cas. Il a toujours dit, il a toujours écrit et il a toujours dessiné ce qu'il pensait. On en a la preuve avec ses dessins contre la guerre du Vietnam à l'époque, dans les années 1960, mais aussi tous ses dessins contre le fascisme, contre le nazisme, comme par exemple ce dessin qui est exposé ici, qui est intitulé Pig Isle.
Quelles sont les œuvres que vous avez choisi de mettre en avant? Comment est-ce qu'on construit une telle exposition? Comment on fait le choix des œuvres?
C'est effectivement ce qu'il y a de plus difficile, surtout quand on s'intéresse à l'œuvre d'un illustrateur ou d'une illustratrice. Pourquoi? Parce qu'il y a du volume, il y a de l'abondance. Les dessinateurs, les dessinatrices travaillent beaucoup. On est parfois confronté à des centaines, voire des milliers de dessins. Donc c'est vrai qu'une sélection, ça peut être à la fois délicat, difficile, mais passionnant, bien sûr. Alors, en ce qui concerne la sélection des œuvres de Michel Kishka, j'ai pu travailler très étroitement avec lui. Il a apporté lui-même, d'ailleurs, des dessins à Strasbourg. On a travaillé ensemble sur la sélection. Bien sûr, j'aurais souhaité en montrer davantage. On souhaite toujours en montrer davantage. J'ai essayé de sélectionner des grands thèmes importants de son œuvre, des dessins qui sont majeurs et surtout des dessins qui montrent son implication dans le dessin satirique et dans le dessin de presse et aussi dans la bande dessinée et dans le dessin éditorial pour les livres.
Oui, parce que justement, au-delà du dessin de presse qu'on peut imaginer presque simpliste dans des traits efficaces et rapides, hein, c'est un peu la façon de croquer l'information, le dessin d'illustration, les livres, montrent un autre art, une autre facette de Michel Kishka.
Tout à fait, parce qu'on a toujours tendance à quand on est un artiste dans une catégorie, dans un genre, dans un registre, très souvent ce n'est absolument pas le cas. Donc, Michel Kishka, par exemple, est à la fois dessinateur de bande dessinée. Je rappelle cette bande dessinée qu'il a publiée en 2018 chez Dargaud, qui s'appelle Falafel sauce piquante et qui revient sur son installation en Israël il y a 3 ou 4 décennies. Et il y a aussi son activité de dessinateur pour la presse. Je pense que c'est sans doute cette activité qui est la plus connue. Puisqu'il travaille à la fois pour la presse israélienne, mais également pour la presse internationale. Il est membre de Cartooning for Peace, comme vous le savez. Et puis il y a aussi son activité de dessinateur éditorial, je dirais, pour les livres, d'illustrateur de livres. Et notamment, nous présentons ici, dans cette exposition, ces illustrations d'une biographie réinventée de Shakespeare qu'il a publiée en 2000 à l'occasion de la redécouverte de sonnets qui ont été attribués à Shakespeare.
Les croqueurs de presse comme ça, les caricaturistes, les gens qui ont un petit peu le trait acerbe contre le gouvernement, ils sont très prolifiques, ils sont obligés de... Enfin, ils produisent beaucoup, on peut imaginer, par rapport à un artiste peintre.
Forcément, oui. Déjà, un dessinateur de presse est très souvent contraint de sortir un dessin, peut-être pas quotidiennement, mais enfin, en tout cas, au moins une fois par semaine. On en connaît d'autres, comme Plantu, qui en sortent un quotidiennement. Il est très difficile pour un illustrateur de presse de coordonner la force du message et la force du dessin. Et la cohésion entre les deux est effectivement difficile à atteindre. Il y a de très grands dessinateurs de presse qui y arrivent, mais c'est une entreprise difficile.
Les dessins de presse, au même titre que d'autres œuvres, est-ce qu'elles sont pérennes? Est-ce qu'elles peuvent parler d'actualité dans le temps? Ou est-ce qu'elles sont amenées à vivre à un moment précis d'une actualité?
C'est bien la difficulté du dessin de presse quand nous, on va dire les conservateurs, les historiens, tous ceux qui font de la recherche autour du dessin de presse, c'est bien le problème auquel nous sommes confrontés, puisque nous sommes chaque fois contraints de recontextualiser le dessin de presse, parce que un dessin de presse d'il y a 40 ans, vous ne vous allez pas vous souvenir forcément de l'événement auquel il était rattaché. Donc il y a tout un travail, je dirais historique, autour d'un dessin de presse à faire. Et dans notre prochaine exposition, qui parlera justement de l'histoire du dessin de presse en France, il y a des dessins devant nous-mêmes. Parfois, nous sommes un petit peu interdits parce que nous ne savons plus à quoi ça se réfère. Donc il y a un côté éphémère, effectivement, du dessin de presse.
Cette exposition était prévue en mars 2020, elle a été reportée, elle a eu lieu alors que les musées sont fermés. Comment est-ce qu'elle peut vivre autrement que dans des murs qui ne sont pas visibles par le public?
Alors elle vit parce que, évidemment, on a communiqué en visites virtuelles qui sont accessibles sur le site internet des musées, sur YouTube également. Là, je parle de manière générale pour toutes les expositions dans ce cas de figure aujourd'hui au musée de Strasbourg. Elle vit aussi parce que nous-mêmes, nous avons fait sans doute avancer la recherche pour ces deux artistes, écrit des articles, ramassé des informations, une documentation qui, de toute manière, servira un jour au futur commissaire d'exposition ou au futur chercheur. Ne pas montrer une exposition, c'est un crève-cœur. Et il faut avoir le contact direct avec l'œuvre, quelle qu'elle soit. Aucune numérisation, aucune visite numérique ne va vous donner ce même sentiment de proximité avec l'œuvre, voilà, de découverte de l'œuvre. Mais il est vrai aussi que ça fait avancer la recherche, ça fait avancer la documentation, notre travail, qu'il n'est en aucun cas perdu. Il n'est en aucun cas perdu, surtout, je pense, dans ce domaine dont je m'occupe ici au musée Tommy Ungerer, qui est celui du dessin d'illustration, parce qu'il y a relativement, finalement, peu de recherches qui ont été faites. Bien sûr, il y en a, évidemment, sur le plan universitaire, il y en a beaucoup. Mais je pense que c'est quand même une chance de pouvoir rentrer dans un sujet, de l'explorer voilà, jusqu'à ses limites et qu'il y en ait ensuite il en reste un témoignage. Alors, les artistes qui sont présentés, notamment donc Michel Kishka, ne sont pas heureux de cette situation, bien entendu.
on célèbre, alors je peux pas dire, je sais pas si on peut dire célébrer, mais il y a eu les 2 ans du décès de Tommy Ungerer. Vous le sentez encore ici dans les murs, son œuvre est vivante, il la porte toujours.
Ben, l'œuvre de Tommy Ungerer, évidemment, elle est intemporelle. Et dans un musée de ce genre qui lui est consacré en grande partie, nous vivons quotidiennement avec les œuvres dans notre collection, nous travaillons dessus, nous les restaurons, voilà, vraiment on fait un gros travail de documentation, de conservation. Donc Tommy Ungerer n'est pas mort pour nous. Il n'est pas mort. Il continue. Et j'entends encore son rire, j'entends encore ses commentaires. C'est comme si je le voyais rentrer ici dans cette salle de l'exposition et puis éclater de rire devant certains dessins de Michel Kishka.
Thérèse Villers, conservatrice du musée Tommy Ungerer. Merci beaucoup.
Merci à vous.